Merci. Le titre a le mérite de souligner ma singularité. C'est évidemment comme économiste et non comme spécialiste de la santé publique que je suis sollicité. Et à vrai dire, même s'il m'est arrivé à d'assez nombreuses reprises de côtoyer des problèmes d'économie de la santé, je suis assez évidemment, parmi tous les intervenants, le plus éloigné des problèmes de santé publique tels que vous les envisagez, vous les prenez en considération dans cette conférence. C'est donc de biens publics mondiaux que je vais parler. Ce faisant, je serai aussi amené à répondre à l'interrogation qui constitue le titre de cette session, la santé, bien public mondial, point d'interrogation. À quoi je répondrai par une autre question, est-ce que la question est purement sémantique ou non ? Non, elle n'est pas purement sémantique, mais elle a un aspect sémantique. Il s'agit d'examiner comment la catégorie de bien public, alors je dirais parfois bien collectif, pour des raisons que je vais expliquer. Donc, telle qu'elle a été élaborée, telle qu'elle est utilisée dans ma discipline, il s'agit donc d'envisager comment elle est adaptée à la description et à l'analyse de préoccupations et problématiques montantes, préoccupations liées, puisque l'on parle de bien public mondial, à la mondialisation ou à la globalisation. Et donc, il va me falloir pour cela revenir sur le sens précis que les économistes donnent au vocable bien public. Il va falloir donc évoquer la logique des distinctions qu'ils introduisent entre bien privé et bien public, entre bien public et externalité, entre bien privé et bien tutélaire, etc. Le travail n'est pas uniquement sémantique, cependant, puisque ces distinctions ont suscité des analyses différenciées des conditions d'intervention publique et des formes qu'elle doit prendre. D'une certaine manière, ces distinctions et d'autres que j'évoquerai nous introduisent au cœur de la tension entre, d'une part, ce qu'on pourrait appeler la logique du marché et, d'autre part, le point de vue du bien-être social. Bien public. Öffentliche Güter. Alors, le vocable constitue la traduction française en français du terme anglais public goods. Je pense que je peux dire la même chose en allemand. En français, c'est une traduction probablement insatisfaisante, dans la mesure où le terme public n'a pas chez nous le même sens, la même connotation qu'en anglais. Bien public suggère en français présomption de prise en charge publique. Ce qui n'est pas le cas en anglais, même si naturellement l'analyse peut conduire ultérieurement à la conclusion suggérée. Paradoxalement, bien collectif serait sans doute une traduction plus fidèle. Je vais rester à bien public autant que faire se peut. Qu'est-ce qu'un bien public ? Alors là, je suis. Oui, excusez-moi, dans le titre, il y a le côté mondial, Welt, est oublié dans le titre anglais. Alors, la meilleure définition que je connaisse est due à un poète français bien connu, Victor Hugo, et elle date du milieu du XIXe siècle. Alors, j'imagine que Goethe, par exemple, a pu donner une définition aussi, voire plus satisfaisante, mais je veux dire que ma connaissance des poèmes de Goethe est trop limitée pour que je l'ai trouvée. Donc voilà la définition de Victor Hugo, elle est ici, « Chacun en a sa part, et tous l'ont tout entier ». Il parlait en ces termes de l'amour d'une mère pour ses enfants. L'amour maternel serait donc un bien collectif. Qu'un des enfants consomme la totalité n'empêche pas les autres enfants de jouir de la même quantité. Alors naturellement, c'est une affirmation que tous les psychologues ou psychanalystes ne cautionneraient sans doute pas, mais qui n'en demeure pas moins une bonne définition du bien public. les économistes qui sont de piètres poètes disent qu'il n'y a pas d'exclusion d'usage. Un bien public s'oppose à un bien privé parce que, alors que toute la quantité du premier est consommable par tous, chaque unité du second, prélevée par un agent, l'un d'entre nous, doit être soustraite au stock total. Donc l'amour de la mère au foyer est un bien public, le pain sur la table familiale est un bien privé. Analytiquement, il y a dans le bien privé, je l'ai esquissé ici, une seule contrainte de rareté. La somme des consommations égale la quantité disponible du bien. Et dans le cas du bien public, autant de contraintes de rareté qu'il y a de consommateurs. Contrainte de la forme, consommation de Monsieur H inférieure ou égale à la quantité disponible. Par dualité, la maximisation du bien-être social, c'est un exercice qu'aiment bien les économistes, fera émerger un prix unique pour le bien privé ou une suite de prix personnalisés pour le bien public. Donc d'un côté, une bonne allocation est a priori compatible avec le marché. De l'autre, elle renvoie à ce qu'on appelle les règles de Samuelson, que ne peuvent faire émerger les seules interactions marchandes, mais dont la concrétisation par des mécanismes publics pose des problèmes à tout le moins redoutables. L'asymétrie d'information entre décideurs ou fournisseurs d'un côté et bénéficiaires de l'autre, dont le marché atténue assez efficacement les inconvénients, est cette fois au cœur de la difficulté. Dans le meilleur des mondes, first best en anglais, le bien public devrait, une fois produit, être mis gratuitement à la disposition. Dans notre monde, second best, la gratuité n'est plus la règle. Voilà donc le point de départ d'un chapitre bien public ou bien collectif d'un manuel d'économie. Alors, avant d'aller plus loin, il faut revenir en arrière et faire quelques remarques. Première remarque, le recours à la métaphore m'a fait aller un peu trop loin. Malgré un certain flou qui entoure la notion de bien économique, la plupart des économistes hésiteraient à qualifier de bien l'amour maternel dès lors qu'il est largement inquantifiable. Donc, si la santé a une dimension bien publique, dire qu'elle est un bien public procéderait de toute façon de la métaphore. Alors, comment passer de la métaphore à quelque chose d'un peu plus mesurable ? Comment passer une quantification dans un ou plusieurs batteries d'indicateurs ? L'exercice n'est pas généralement facile. Pour s'en tenir au bien public archétypique, comment définir, par exemple, la qualité de la défense nationale pour un pays, et si le phare, autre exemple archétypique de bien public, placé sur un promontoire éclaire tous ceux qui doublent le cap, comment mesurer la qualité du service rendu, qui dépend d'une série de caractéristiques du phare, la puissance, etc., etc., la hauteur, etc. Donc, première difficulté dans cette quantification. Deuxième remarque, l'amour maternel est un bien public, ou du moins métaphoriquement. Il fait, comme dit mon collègue Serge Kolm, l'objet d'un concernement collectif. Alors, il s'agit d'un néologisme qui vaut ce qu'il vaut. Ça veut dire qu'il concerne un collectif et non un individu. Mais dans le cas de la mère, ce collectif est petit. Donc, le bien public est local. Si le collectif concerné est le monde, le bien public est mondial, ou global, si l'on préfère. Enfin, remarque purement sémantique et algébrique, le bien public quantifié, mais précédé du signe moins, devient un mal public. Troisième remarque, les économistes utilisent aussi une notion d'externalité voisine, au sens où les deux catégories s'inscrivent dans un chapitre qui s'appelle en général « Échec du marché »,« Market failure » en anglais, d'un manuel d'économie publique. Alors, je ne crois pas, en ce qui me concerne, la distinction aussi clairement, efficacement établie que le suggèrent les manuels de microéconomie, qui la posent dans un cadre de description du monde préalablement constitué. Mais je ne prétends pas, évidemment, en dire beaucoup plus ici. Revenons pour récapituler et illustrer ce qui vient d'être dit sur un exemple de bien public mondial. En restant dans l'usage métaphorique du vocable, il me semble aujourd'hui que le bien public mondial le plus, je dirais, médiatiquement incontestable est la qualité du climat. Cette qualité est aujourd'hui menacée par l'accroissement de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Concentrations qui, je le note en passant, sont-elles mesurables et éventuellement agrégeables dans un indice synthétique qui s'appelle le pouvoir de réchauffement climatique, Global Warming Power, GWP, ce qui m'amène d'ailleurs au prochain transparent. Je suis en retard. Voilà. L'émission d'une tonne de dioxyde de carbone dans l'atmosphère constitue donc un mal collectif, global, ou un mal public. Alors, non parce que son effet sur le climat sera le même dans toutes les régions du monde, en fait, certaines régions du monde peuvent, on le sait, au contraire, bénéficier, au moins pendant plusieurs décennies, du réchauffement climatique, mais parce que cette émission a le même effet, quelle que soit sur la concentration des gaz à effet de serre, quelle que soit la région du monde où elle est effectuée. 10 molécules de dioxyde de carbone émises à Hong Kong ou à Berlin se retrouvent peu de temps après dans n'importe quelle région de l'atmosphère, et 6 y seront encore présentes dans un siècle. La discussion des politiques climatiques entre donc bien dans le cadre de ce premier chapitre, bien collectif, externalité, bien public, d'un manuel d'économie publique. Ce cadre se révèle malgré tout relativement et rapidement insuffisant. D'une part parce que, et ce sera le cas pour les biens publics mondiaux, pour tous les biens publics mondiaux, la politique publique ne relève pas ici de l'autorité d'un gouvernement, en l'occurrence un gouvernement mondial qui n'existe pas, mais de toute une série de gouvernements souverains, et qu'il faut donc passer du point de vue traditionnel du gouvernement, celui de l'économie publique, à celui de la gouvernance. D'autre part, mais c'est évidemment une autre affaire, parce que les politiques climatiques ont des interférences fortes, très insuffisamment comprises, avec le fonctionnement des marchés des carburants fossiles. Les problèmes de santé, qui renvoie le plus immédiatement à la métaphore du bien public mondial, ou encore à l'externalité négative mondiale, sont bien entendu se liés aux épidémies dont l'air est planétaire. Alors, une remarque évidente, hein, il y a bien en l'occurrence concernement collectif, donc on peut l'associer à la métaphore du bien public mondial, mais notons que les biens publics mondiaux correspondants n'ont absolument pas attendu l'ère de la mondialisation pour être sur nos écrans. Alors j'illustrerai ceci par deux exemples qui ont une vocation un peu illustrative. Ils sont tirés d'un ouvrage d'un historien américain que j'aime bien, qui s'appelle William McNeill. Cet ouvrage s'appelle « Plagues and People ». Il est plus très récent et je pense que son auteur doit être mort. Patrice Bourdelet m'a dit hier que certaines de ses informations dataient, certaines autres étaient obsolètes. C'est cependant un ouvrage que je relis à chaque fois avec le même plaisir. Il explique, et la thèse est provocatrice, mais c'est vraiment un des charmes de l'ouvrage, l'histoire de l'humanité non pas comme le produit de la lutte des classes et ou des États, mais comme le champ permanent de l'affrontement entre les hommes et les microbes. Tout en découlerait, ou presque, sauf bizarrement la Révolution française. Selon McNeill, la peste, qui deviendra la peste noire, apparaît en Chine en 1331. Elle voyage le long des itinéraires asiatiques des caravanes, ça c'était les chemins de la mondialisation alors, pendant les 15 premières années, pour toucher la Crimée en 1346. Elle atteint Marseille en décembre 1347, Paris en juin 1348, Cologne, à l'été 1349, puis Hambourg, en 1350. L'épidémie renvoie clairement la métaphore du mal collectif ou public mondial. Évidemment, tout ce qui se rapporte aujourd'hui aux grandes épidémies d'air potentiellement très large nous renvoie assez clairement à cette même catégorie, que l'on passe à la grippe aviaire, au SRAS, au SIDA. Donc la lutte contre l'épidémie est métaphoriquement un bien public mondial. et la mise en œuvre des outils qui sont les instruments de cette lutte peuvent être vus, cette mise en œuvre, ces outils peuvent être vus aussi comme des biens publics mondiaux. Et je reviens à nouveau pour une nouvelle anecdote à Mackney. C'est en sens que l'on peut, en suivant Mackney, penser qu'un interdit religieux peut être un bien public mondial. En effet, Mackney décrit une tribu mandchoue. Alors, la Mandchourie était dans un des lieux d'où pouvait partir la peste, des pestes planétaires, qui chassait la marmotte pour sa fourrure. Et dans cette tribu, il y avait un interdit religieux ancestral venu du fond des temps qui interdisait de donner la mort à des animaux qui ne courent pas. En particulier, cet interdit interdisait le piégeage. Enfin, cette règle interdisait le piégeage. L'abandon ultérieur de cet interdit par des envahisseurs tardifs conduira à leur décimation. On réalisera alors que les animaux qui courent ne sont pas porteurs de la peste bubonique. Voilà donc un interdit religieux qui était un bien public mondial il y a quelque temps. Je sors des anecdotes. Mon analyse a son corollaire. Comme une épidémie à ère globale ou mondiale renvoie à la catégorie du bien public global ou mondial, une épidémie à ère locale, parce que son périmètre de contagion est circonscrit à un pays, à une région, à une ville, à un quartier, relève de la catégorie bien public local. Alors, je ne veux pas dire pour cela qu'une épidémie en Lorraine ou en Bavière devrait laisser indifférent le gouvernement central en France et en Allemagne, bien sûr. Voilà donc ce qui, en matière de santé, me semble relever clairement de la problématique bien public mondial. Dans un cas, pardon, de bien public, hein, mondial dans un cas, local dans l'autre. Symétriquement, alors toujours dans la catégorie économique, indiquons ce qui renvoie clairement à la problématique du bien privé. La santé d'un individu l'affecte d'abord en premier lieu, même si elle peut affecter son entourage, avoir des effets qu'il dépasse. Les problèmes de santé, la maladie, la souffrance relèvent d'expériences individuelles qui renvoient dans les catégories économiques au bien-être individuel. Donc métaphoriquement, la santé personnelle est d'abord un bien privé. Aussi, il va sans dire, mais peut-être vaut-il mieux le dire, que la consommation d'un médicament est dans nos catégories une consommation privative, que le médicament est incontestablement un bien privé. Est-ce à dire que les raisons qui ont été évoquées ici et là pour justifier une dimension public health, santé publique, aux problèmes de santé, et d'une manière ou d'une autre pour justifier telle ou telle prise en charge publique, sont irrecevables par les économistes? Non, bien sûr. Tout relève, si elle à la notion de concernement collectif, tout relève d'un concernement collectif, je remploie le néologisme que j'avais utilisé tout à l'heure, légitime, condition nécessaire mais non suffisante à leur inscription dans la catégorie des biens publics. Alors je vais essayer de reprendre les questions. Ce que je vais dire d'ailleurs fait écho à ce que j'ai entendu hier matin, à ce qui a été évoqué, au justificatif que j'ai cru comprendre, et reprendre 5 catégories de l'intervention publique, de justification d'intervention publique, en les commentant très brièvement. Dans le domaine de la santé comme ailleurs, première catégorie, l'État assure des fonctions de certification. Il fixe ainsi des conditions légales à l'exercice de la médecine, subordonnées à l'obtention de diplômes reconnus. Deuxièmement, dans le même ordre d'idées, une forme d'intervention dans le fonctionnement des marchés me semble être à l'origine de quelques-unes des interventions les plus spectaculaires de l'État en matière de santé. C'est du moins l'interprétation que je donne à la création d'institutions publiques de sécurité sociale, au moins dans leur forme bismarckienne. Ces institutions sont pour moi d'abord des substituts publics, la sécurité sociale bismarckienne, à des formules privées envisageables, mais que les dysfonctionnements inhérents au marché de l'assurance rendent moins souhaitables. Troisièmement, l'intervention publique pour la fourniture de biens essentiellement privés est fréquente. C'est la public provision of private goods qui s'oppose à la private provision of public goods. Elle a été historiquement forte dans le secteur de la santé et dans celui de l'éducation, et en fait pour des raisons qui ne sont pas fondamentalement différentes. La santé publique, je reviens à ce qui a été dit hier, dans les États-nations du XVIIIe au XXe siècle, faisait souvent écho, nous a-t-on dit, à des préoccupations économiques. Des travailleurs en bonne santé, ou militaires, des soldats en bonne santé. La lecture de cette motivation renvoie à la catégorie économique des défaillances de marché. Pour un économiste, il y a, ou il y aurait, externalités positives, ou plutôt en l'occurrence, qu'on pourrait appeler des rendements croissants qui seraient liés à la taille de l'économie, c'est la thèse mercantiliste, ou à la taille de la nation, au nombre, à la vigueur de ses soldats et de son armée. Et ces externalités positives ne sont pas convenablement prises en compte par les agents économiques dans leurs décisions individuelles, et donc l'État, dans le jargon des économistes toujours, devrait les internaliser. Alors, on peut évidemment discuter l'argument dans le contexte qu'il a été, où il peut être utilisé. On peut faire référence, en l'occurrence, à un bien public national. Mais la transposition, je m'interroge sur la transposition de l'argument à un échelon mondial, qui aujourd'hui ne me paraît seulement modérément convaincante. À démographie donnée, il n'est pas interdit de penser qu'une meilleure santé mondiale peut avoir des effets économiques positifs sur la croissance, mais la clause conditionnelle est tout sauf anodine. Quatrième catégorie. Enfin, les raisons invoquées de l'intervention ne tiennent pas nécessairement à une défaillance du marché, qui est au cœur de l'argumentaire précédent, mais à ce qu'on appelle parfois un comportement tutélaire de la puissance publique. Suspecté de prendre des décisions contraires à son intérêt bien compris, le citoyen consommateur voit ses choix contraints et réglementés, dépistage obligatoire, interdiction de certaines consommations, etc. Dans ce registre des réglementations, il importe cependant de distinguer entre aspect tutélaire et externalité négative. La justification des réglementations se situe en fait sur un spectre continu allant, je parle toujours dans les catégories de l'économiste, de la mise sous tutelle pure et simple, l'agent fait de mauvais choix pour lui-même. À l'externalité négative pure, l'agent fait des mauvais choix pour la société. Et dans beaucoup, si vous prenez des discussions de politique économique spécifiques, vous verrez que le curseur est mis quelque part entre ces deux catégories. Il me reste... Donc voilà quatre registres d'intervention de l'État qui ne sont pas, qui ne relèvent pas du bien public mondial et qui relèvent de l'intervention légitime, concernement collectif légitime, donc une intervention de la puissance publique a priori légitime. Il reste un dernier registre plus délicat de la justification d'intervention, de la logique de santé publique, et qui renvoie à ce que Patrice Bourdelais a appelé hier, avec un terme très évocateur, la citoyenneté. Et avec la citoyenneté, les aspirations égalitaires qui y sont associées. Alors ce point est plus délicat à traiter pour l'économiste, non parce qu'il met l'accent sur des questions d'inégalité que l'économiste serait incapable de traiter, ou qu'il jugerait secondaire, alors ce n'est pas le point de vue de la très grande majorité d'entre nous, mais parce que d'une certaine manière, le désir d'égalité s'y exprime de façon quelque peu lexicographique. L'inégalité en matière de santé serait plus scandaleuse qu'ailleurs. Et si j'ai bien compris ce qui a été dit hier, c'est cette conviction qui a été à l'origine de beaucoup d'actions engagées au XIXe siècle. C'est elle qui semble justifier une attention sélective aux problèmes de santé du tiers-monde. Comment l'analyser dans nos catégories ? Je ne pas l'analyser au fond, mais l'analyser dans sa forme. Elle relève d'un sentiment de solidarité, d'un objectif de solidarité sur lequel l'économiste en tant que tel ne se prononce pas, mais qu'il prend comme une donnée. Je vois à cette attention sélective deux principales justifications, mais qu'il faudrait creuser. La première, c'est que la maladie est un marqueur du besoin d'aide qui est peu manipulable et qui, en conséquence, n'a pas d'effet désincitatif, ces effets désincitatifs qui peuvent plomber le bilan des politiques de redistribution. La seconde est que ces politiques ont sans doute un bon rapport coût-efficacité, c'est-à-dire qu'elles permettent l'expression d'une solidarité effective à des coûts relativement faibles. Mais naturellement, il s'agit de conjectures et que je devrais essayer de mettre à l'épreuve de l'étude des faits historiques rapportée par Bourdelais hier et à l'épreuve également d'une réflexion sur les problèmes actuels. Faut-il mettre cependant l'action dans ce registre, hein, la solidarité prioritaire dans le domaine de la santé, faut-il mettre l'action dans ce registre sous le chapeau bien public mondial ? J'hésite à répondre, mais je réponds plutôt par la négative, car si la métaphore ici me paraît contestable, elle n'a aucune efficacité analytique et j'y vois plutôt source de conclusion. Voilà, j'en arrive à... Je n'ai vraiment pas du tout su utiliser ça, mais... Voilà donc... Achevez cette exploration amont. Vous êtes sans doute resté sur votre faim parce que cette exploration amont ne m'a amené au bord des problèmes, mais je ne suis pas entré dans les problèmes. Je crois qu'elle est absolument nécessaire pour une réflexion sur ces problèmes, pour une réflexion sur la légitimité, la forme que doit prendre l'intervention en termes de santé publique. Mais je dois dire que je suis resté à l'extérieur. Bien entendu, j'aurais souhaité traiter au fond un certain nombre de problèmes. Par exemple, la question du prix des médicaments pour les pays en développement et de leur différenciation entre pays en développement est évidemment à la fois un sujet très difficile et très passionnant, dont je pense que la réflexion préliminaire que j'ai donnée ici aurait pu contribuer à éclairer, du moins j'espère. Je veux simplement dire ici qu'il nous renvoie incidemment au problème de bien public mondial. Tout simplement parce que le savoir, celui qui est dans un théorème de mathématiques ou celui qui est dans la conception d'un médicament, est un bien collectif, et dans les deux cas un bien collectif mondial, même si, j'ai dit tout à l'heure, le médicament lui-même est un bien privé. Le théorème de mathématiques lui est mis à la disposition gratuitement. Ça ne veut pas dire que l'on peut le consommer facilement, mais il est mis à la disposition gratuitement, ou quasi gratuitement. Le médicament est protégé par un brevet. Et le brevet est un compromis apparu historiquement dans la Venise du XVIe siècle, hein, qui s'est beaucoup développé depuis, entre deux exigences contradictoires. Rendre le bien le plus accessible possible, parce qu'une fois qu'il est produit, il vaudrait mieux qu'il soit accessible pour tout le monde, mais aussi, l'autre volet, donner des incitations à ce qu'il soit produit. Et le brevet est une solution. Alors, je ne sais pas si c'est du second best, du third best, mais évidemment, c'est une... Nous voilà donc revenus de la problématique bien public mondial, hein, dont j'ai souligné les limites en matière de santé, et plonger au travers de l'évocation du brevet aux difficultés de cette problématique. Difficultés que je n'ai pas évoquées au fond jusqu'ici. Alors donc j'aurai le choix entre repartir pour un second exposé ou conclure. Je conclus.